Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
La situation sécuritaire au centre du Mali, le plan d'action du gouvernement de transition, le meeting du week-end du M5-RFP et la hausse des prix du pain, de l'huile, de la viande, du ciment et du fer sont entre autres les sujets qui seront abordés au cours de ce forum de la presse avec nos invités, tous journalistes, Massiré Diop du journal L'Indépendant, Badou Escoba du journal Le Carrefour et Fatoumata Maguiraga du journal du Mali qui va nous rejoindre sous peu. Je suis Imran Akilou-Maïga, auditeur, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le plan d'action gouvernemental a été approuvé ce lundi par la majorité de conseillers nationaux de transition, 100 voix pour, 4 contre et 3 abstentions. Déjà, savez-vous de quoi il y a dans ce plan d'action?
Bien évidemment. Bonsoir d'abord. Je crois que le plan d'action regroupe un peu, en tout cas, une sorte de feuille de route pour les prochains mois, pour la gestion de la transition. Ça aborde les questions de sécurité, les questions des élections, les questions aussi du front social qui est en ébullition, on le sait depuis quelque temps. Mais peut-être qu'une fois entré dans les débats, on verra que c'est un plan très ambitieux et a-t-on véritablement les moyens de le réaliser? C'est ça justement la question aujourd'hui.
Est-ce que vous trouvez que ce plan a suffisamment pris en compte les préoccupations des Maliens?
Je crois que, en tout cas, suffisamment pris en compte les préoccupations des Maliens. Je pense que c'est le terme qui vaut mieux. On a entendu des gens parler de l'accord, on a entendu aussi parler de la question de la sécurisation du pays avec les attaques qui se multiplient, on a entendu également la préparation des élections. Je crois que c'est le défi le plus grand qui est lancé aux autorités actuelles, sans compter aussi la préparation l'élaboration d'une nouvelle constitution. Je crois que tout ça entre un peu dans le schéma des réformes qui devront être mises en œuvre et auxquelles le peuple malien aspire.
Vous, qu'est-ce que vous en savez de ce plan d'action gouvernemental?
Bon, moi je pense que ce plan d'action gouvernemental est un plan trop ambitieux. D'ailleurs, il y a certains conseillers nationaux qui ont émis des doutes par rapport à l'application de ce plan. Et vous savez que ce plan-là tourne autour de 6 axes prioritaires avec 23 objectifs. D'abord, le Premier ministre Mokhtar Ouane a été un peu plus clair. Il a fait savoir que le président de la transition, Bando, a insisté pour que le délai de la transition soit respecté. Deuxièmement, et il a fait savoir qu'il y aura des modifications par rapport à l'accord d'Alger. Il a affirmé que du nord au centre, toutes les milices seront dissoutes et le DDR sera strictement appliqué. Il s'est appesanti aussi sur un certain nombre de questions, à savoir la dépénalisation des délits de presse, la lutte contre la mendicité, la lutte contre l'esclavage. Donc voilà, entre autres, des programmes auxquels le Premier ministre vraiment s'attellera avec son gouvernement pour trouver une solution très, très rapidement. Nous pensons effectivement que ce programme est trop ambitieux, mais il s'agit de l'État. Quand il s'agit de l'État, si l'État n'a pas les moyens, l'État se donne les moyens.
Vous partagez l'idée selon laquelle ce plan a pris suffisamment en compte les préoccupations des Maliens?
Oui, on peut dire, sans risque de se contredire, que ce plan a effectivement pris en compte les priorités des Maliens. Mais le problème, il n'est pas seulement de passer devant le Conseil national, égrener le plan d'action, mais il s'agit de l'application de ce plan d'action. Et c'est à ce niveau que beaucoup se posent des questions. D'ailleurs, des conseillers nationaux ont posé cette question au Premier ministre pour lui dire, mais où est-ce qu'il va trouver les fonds nécessaires pour pouvoir appliquer ce plan d'action qui est très, très ambitieux?
Effectivement, d'où sortiront les moyens financiers?
Bon, je pense que le gouvernement a les mécanismes quand même qu'il faut pour faire appel un peu aux partenaires, appel aux bailleurs et voir un peu les ressources existantes au niveau national pour vous. Mais là n'est pas la question. Je pense que le problème de moyens, le gouvernement, en tout cas les autorités en place pourront facilement y faire face. Parce que déjà que vous avez entendu la dernière fois les propos de Macron lors de la conférence de presse au sortir du sommet de N'Djamena les 15 et 16 février dernier, où il disait que ce gouvernement a fait en 3 mois ce que le gouvernement précédent ou bien les autorités précédentes n'ont pas fait en 3 ans. Donc ça montre un peu qu'aujourd'hui les vannes sont assez ouvertes et que les partenariats reprennent de façon, en tout cas de manière beaucoup plus sincère et beaucoup plus ouverte. La question des moyens, pour moi, ça ne se pose pas. Maintenant, c'est le délai. Le délai, parce que je pense qu'en 12 mois, est-ce que...
Nous allons y arriver. Ah, voilà. Est-ce que le Mali, sans les partenaires techniques et financiers, a les moyens de ses ambitions?
Je ne pense pas. C'est extrêmement difficile. Le contexte aujourd'hui, surtout le contexte... D'abord, il y a le contexte endogène et il y a le contexte aussi exogène. Vous n'êtes pas sans savoir le contexte du coronavirus et tout ce qui s'ensuit, qui a fait que bon nombre de projets aujourd'hui est arrêté. Et au niveau national, vous savez très bien qu'avec l'insécurité qui prévaut, avec aussi d'autres situations, les agriculteurs ne peuvent pas rejoindre leurs champs, les éleveurs ne peuvent pas faire paître leur bétail comme il faut, les pêcheurs aussi n'ont pas aussi la chance d'aller. En tout cas, les mines aussi ne fonctionnent pas comme en période normale. Donc il y a beaucoup de problèmes qui font que aujourd'hui le Mali, sans l'apport des partenaires, ne peut pas faire face tout seul à tout ce vaste chantier.
Il a parlé tout de suite d'un délai. Selon vous, ce plan est-il réalisable dans le délai imparti?
C'est ce que je disais au début du débat. J'ai dit que le plan est trop ambitieux, mais quand l'État n'a pas les moyens, l'État se donne les moyens. Mais déjà, il faut dire qu'ils ont du grain à moudre. Je parle des différents organes de la transition, dans la mesure où aujourd'hui seulement la région de Banyangara a été attaquée.
Nous allons en parler.
Justement, donc, pour encore une fois vous dire que l'État, si l'État n'a pas les moyens, l'État se donne les moyens. Mais nous sommes dans un contexte exceptionnel parce qu'il s'agit d'une transition. Donc, il y a eu un coup d'État. Donc, les autorités qui sont en place, nous savons tous comment ces autorités sont venues. Et ces autorités, jusqu'à récemment, n'avaient pas la bénédiction de la communauté internationale parce que la communauté internationale a estimé que ces autorités sont venues suite à un coup d'État. Mais petit à petit, la situation commence à se décanter et les patrons techniques et financiers sont en train de comprendre qu'il faut épauler le Mali, il faut soutenir le Mali. Parce que si les patrons techniques et financiers aujourd'hui ne soutiennent pas le Mali, ce n'est pas une bonne chose parce que le Mali est en train de prendre l'eau partout. Or, si on ne trouve pas une solution au problème malien, le Mali risque d'être ce cocktail Molotov qui va faire exploser le reste de la sous-région. Et ça, c'est une réalité. Les patrons techniques l'ont compris et ils commencent à mettre la main à la poche pour que vraiment la transition puisse arriver à bon port et qu'il y ait des élections crédibles et transparentes pour que le nouveau président qui sera élu soit élu vraiment dans de très bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas de contestation après. Parce que vous savez, nous savons tous ce qui est en train de se passer au Niger. Déjà, il y a eu 2 mois. Donc, nous ne souhaitons pas que cela arrive encore au Mali.
Le Premier ministre promet de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et quelques jours après sa déclaration, le centre a été victime d'une attaque de groupes armés non identifiés. Qu'est-ce que vous pensez de la sécurité au centre du pays, Fatoumata?
Bonjour. Et donc, moi, je pense que c'était un grand chantier, comme on dit. C'est-à-dire, si on prend la déclaration ou le programme de... le plan d'action du gouvernement de transition que le Premier ministre a dévoilé, on voit bien que seulement sur cet aspect sécuritaire-là, il y a tellement de priorités. Et toutes ces priorités-là sont vraiment de gros chantiers qu'on imagine mal le réaliser en un laps de temps. C'est vrai qu'on est dans un vrai imbroglio par rapport à cette situation sécuritaire-là qui semble un peu quand même s'enliser malgré des signes positifs, notamment les CSA dernièrement, Kidal et tout ça.
Donc vous estimez que la promesse de rétablissement de la sécurité au nord et au centre du pays n'est pas réalisable?
En tout cas, pas dans un aussi laps de temps. C'est vraiment un grand chantier, comme on dit. Et quand on voit toutes les problématiques, parce que dernièrement, j'écoutais un forum, il y avait un expert qui venait du centre, qui disait que les populations du centre disent que en fait tout ce que le gouvernement ou en tout cas les ONG ou bien les partenaires mettent dans des expertises, des études, etc., que s'ils leur donnaient la moitié, que voilà, il y aurait grand-chose. Donc, souvent, on a le sentiment qu'il y a une espèce de dialogue des sourds, comme si le gouvernement n'avait pas compris, voilà, comment aborder cette question-là, en fait. Je pense qu'il y a encore ce décalage-là entre les autorités et puis la façon dont même les populations appréhendent cette question.
Vous partagez cette idée selon tout laquelle il y a une désorientation?
Tout à fait. Je pense que le discours ne passe pas. C'est toujours la même chose. On a tout le temps dit que souvent, entre les administrateurs et les administrés, souvent le courant ne passe pas trop. Et là, on a l'impression qu'on fait d'abord les politiques, puis on revient encore pour prendre en compte les préoccupations des populations. Donc il y a un réel décalage qui est là. Et ce qu'elle dit est tout à fait vrai. Le dialogue de sourds, c'est malheureusement ce qui existe. Badou a tenté de le rappeler tout à l'heure avec l'attaque qui s'est produite hier à Bayangara. C'est justement ça, une incompréhension.
Huit morts et cinq blessés parmi les soldats maliens.
Cette situation malheureuse pouvait être évitée, pouvait être gérée autrement et que ça n'allait pas arriver jusque-là. Parce que,
Éviter comment?
Bon, éviter parce que vous savez très bien, depuis quelque temps, d'ailleurs, la zone est complètement en remous avec la visite, avec en tout cas le forum qui était le forum prévu à Koro, où ils ont signé un accord de plus. Donc, avec la visite effectuée dans la zone par l'ancien porte-parole du mouvement Dan Abassagou, qui est aujourd'hui chef de cabinet au niveau de la réconciliation, les gens n'étaient pas trop d'accord. Et on sait qu'ils avaient même donné un ultimatum comme quoi qu'il fallait le faire partir du département. Et sa visite, après avoir dit qu'il ne serait pas là, donc tout ça a fait qu'aujourd'hui, nous en sommes malheureusement arriver à cette situation-là. C'est pour cela que j'ai dit que ça pouvait être évité. C'est un dialogue de sourds qui est là et à mon avis, il va falloir vite corriger cela parce que 12 mois, c'est bientôt.
Quel sens peut-on donner à la déclaration du Premier ministre quelques jours après cette attaque intervient?
L'attaque de la région de Banyangara, elle est signiquée. Et les autorités sont loin de pouvoir rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et vous savez que tout passe par le retour des services sociaux de base. Pour le moment, il n'y a pas de services sociaux de base au centre et au nord. Donc, c'est extrêmement grave. Et au-delà
de cela, il a pourtant promis le retour des services sociaux de base.
Il l'a dit, mais on attend l'application. Au-delà de cela, ce qui s'est passé à Banyangara est la preuve que le pouvoir central ne maîtrise pas son territoire. L'autorité de l'État n'est toujours pas restaurée parce que hier, c'est une délégation gouvernementale qui devait se rendre à Banyangara. Et Dana Mansogo est sorti pour couper la route pour dire que cette délégation gouvernementale ne se rendra pas à Banyangara. Apparemment, la délégation était composée de Marcelin Guenguéré, le chef de cabinet du ministre de la Réconciliation nationale et du chargé de mission du ministre de la Réconciliation nationale, Sekou Boulé. Donc, les combattants de Dana Mansogo ont dit non, la délégation ne se rendra pas à Banyangara. Et hier soir, il y a un avion qui a survolé la ville. Puis après, il y a eu une attaque. Et vous l'avez rappelé, il y a 8 gendarmes. C'est un escadron qui a été attaqué. Donc, c'est la preuve que les colonels qui sont au pouvoir vraiment sont en train de nous décevoir. Parce que nous, on pensait qu'avec leur venue, le fait qu'ils aient occupé le poste de gouverneur, et ils allaient pouvoir peut-être maîtriser rapidement la situation. Nous constatons ces derniers temps que la situation sécuritaire est en train de se dégrader. Parce qu'avant-hier seulement, un détachement de la 53e compagnie d'intervention rapide qui devait quitter Sévaré pour Kona a été victime d'une attaque. Deux soldats également ont trouvé la mort. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas dire que le Premier ministre Mokhtar Ouane vraiment est en mesure de rétablir l'ordre et la sécurité. On ne peut pas dire que son discours, pour le moment, est subi des faits. Mais le temps jugera chacun et nous attendons de voir.
Il a aussi il vise aussi à désilenter la relecture, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Cette relecture est-elle possible sans l'avis de toutes les parties prenantes?
Non, l'article 65 même de l'accord d'Alger dit que l'accord d'Alger peut subir des modifications, mais à condition que toutes les parties soient d'accord.
Et d'ailleurs, et si une partie refuse?
Bon, apparemment
cette relecture est-elle possible?
Apparemment, toutes les parties sont d'accord pour que l'accord d'Alger soit modifié, mais toutes les parties également ont posé des conditions pour cette modification. Et ce qu'on peut, là où on peut dire que vraiment le gouvernement a amorcé une certaine avancée, c'est la 42e Et CCA qui a eu lieu récemment à Kida, donc vraiment a démontré quand même que quelque part, l'État est déterminé vraiment à aller à la paix. Vous savez que toute guerre se termine autour d'une table, il faut impérativement négocier. Mais au-delà de Kidal, il faut qu'il y ait vraiment un dialogue national inclusif où tous les fils du pays vont se retrouver, discuter, échanger et trouver une bonne foi, une solution juste et équitable à tous les maux qui minent actuellement le Mali. Vous savez, au-delà des problèmes de sécurité, il y a le front social qui est en ébullition, il y a la cherté de la vie. Donc, tous ces facteurs vraiment doivent trouver une solution et le plus rapidement possible si nous voulons que cette transition vraiment puisse arriver à bon port et que de nouvelles institutions soient mises en place pour le plus grand bonheur de l'ensemble du peuple malien.
L'axe 5 du gouvernement consiste à dialogue. Allez-y.
Voilà, sur le même dossier, par rapport, sur le même en tout cas aspect par rapport au programme d'action gouvernementale. Bon, moi je suis en tout cas de ceux qui pensent que cette relecture n'est pas opportune. En tout cas à ce moment actuel des choses. Je le pense sincèrement. Parce que nous allons aller forcément vers de nouvelles négociations. Et vous vous rappelez très bien les différents rounds, les pourparlers, les mois que Alger a pris pour parvenir à cet accord-là. Moi, je pense que comme c'est un gouvernement de transition, est-ce qu'il n'y a pas les moyens plutôt d'aller vers ce qui est urgent aujourd'hui, la préparation des élections, la contribution à la sécurisation, et puis après laisser maintenant, quitte à laisser aux nouvelles autorités la charge de discuter avec toutes les parties pour parvenir aujourd'hui à une relecture de l'accord s'il y a des points qu'ils jugent encore compliqués ou des points qu'ils jugent encore non élucidés. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense que cette relecture peut nous engager vers un chemin beaucoup plus incertain. En tout cas, si c'est seulement la transition que nous avons pour cela.
Fatoumata, vous partagez l'idée selon laquelle la priorité, c'est d'abord la préparation des élections?
Absolument, parce que comme je vous le disais au départ, c'est-à-dire si vous prenez chaque action et que chaque axe, vous voyez un peu les priorités qui sont dégagées dedans, vous voyez que chaque priorité est vraiment un chantier à part. Et donc, justement, en ce qui concerne la relecture là, effectivement, je partage l'avis de Massiré parce que je ne pense pas que le gouvernement de transition ait suffisamment la légitimité de pouvoir réunir tout le monde et puis surtout de pouvoir aller vers cette relecture-là. Parce que relecture d'abord sur quoi? Relire quoi? Voilà, se mettre d'accord sur quoi? Donc je pense que ça risque de prendre suffisamment de temps parce que l'accord qui a été signé, il a été dans un contexte particulier. Maintenant, on est dans un autre contexte parce que c'est... Bon, le but ultime, comme on l'a dit, c'était de trouver une solution au problème du Nord. Et maintenant, on est dans une situation où on ne parle plus du problème du Nord, on parle du centre, on parle du Mali tout simplement. Et donc, relire l'accord effectivement pour le gouvernement de transition, je pense que c'est une tâche qu'ils doivent laisser aux nouvelles autorités. Et donc, l'urgence, c'est effectivement de pouvoir mettre en place des autorités vraiment légitimes en qui...
L'axe 5 également du gouvernement consiste à dialoguer avec les groupes extrémistes radicaux maliens. Qu'est-ce qui pourrait être dialogué avec ces groupes extrémistes?
Bon, disons que par rapport à cette question, je suis vraiment pas spécialiste. Je pourrais pas dire voilà sur tel ou tel aspect on pourra s'entendre. Sur ça avec les groupes extrémistes et radicaux. Mais ce que je pense fondamentalement, je pense qu'il faut, c'est-à-dire stabiliser, retrouver la stabilité là, au niveau de voilà, toutes les régions du Mali où actuellement les groupes d'autodéfense ou extrémistes ont proliféré. Et donc je pense que par rapport à ça, le gouvernement ou les autorités ont, comment on va dire ça, assez de possibilités, en tout cas pour pouvoir parler, parce qu'il y a des, comme on dit dans ce contexte-là, il y a des ennemis visibles, il y a des ennemis invisibles. Donc au moins ceux qui sont visibles, vraiment les groupes d'autodéfense qui se sont constitués pour dire vraiment l'État n'est pas là, nous on assure notre propre sécurité. Je pense que le gouvernement a la possibilité de s'asseoir avec eux, de convenir de quelque chose. Maintenant par rapport aux groupes extrémistes, qui des groupes extrémistes, voilà, et ils veulent une position. Est-ce qu'ils vont céder ça pour le gouvernement? Donc, ils vont céder quoi? Le gouvernement aussi va leur céder quoi? Donc, je pense que par rapport au dialogue avec les groupes extrémistes, je suis assez sceptique.
Vous êtes sceptique?
Bon, moi, je pense que l'État, la transition doit s'atteler d'abord et par rapport aux réformes politiques et institutionnelles, mais par rapport à l'accord d'Alger, je ne partage pas tout à fait leur point de vue, parce que la situation de la transition, vraiment, c'est vrai, il y a un problème de légitimité et de légalité qui se pose, mais je pense que cette transition quand même peut vraiment essayer de voir avec toutes les parties comment modifier les parties qui prêtent à discussion, parce que le président Bandao, pendant son discours, a dit qu'il est déterminé à appliquer les recommandations du dialogue national inclusif. Or, dans le dialogue national inclusif, il a été clairement dit qu'il y a certaines dispositions.
La négociation avec les djihadistes.
Oui, par rapport à la négociation avec les djihadistes, je partage largement leur point de vue. Et d'ailleurs, le dialogue national inclusif a recommandé à ce qu'on négocie avec les djihadistes maliens, c'est-à-dire les djihadistes maliens qui ne sont pas radicaux, les djihadistes maliens modérés. Donc, qu'on puisse négocier avec eux. Mais des conditions ont été posées pour ces négociations. Parce que même si on devait négocier avec ces groupes extrémistes, quand même, il y a la laïcité de l'État qui doit être respectée, la forme républicaine de l'État doit être respectée.
Est-ce à dire que la laïcité de l'État sera mise en cause?
Pas forcément. Ça dépend du contenu que l'État va proposer aux groupes extrémistes. Et ça va dépendre de ce que les groupes extrémistes aussi vont poser comme condition. Mais tout est que le dernier mot reviendra à l'État. Et lors du sommet de N'Djamena, le président du sortant du Niger, Mahamadou Issoufa, a été clair. Il dit que vraiment, il faut combattre les terroristes, il faut les combattre jusque dans les derniers retranchements. Et le président Macron a fait un discours quand même très significatif. Il dit qu'il faut impérativement que les services sociaux de base puissent retourner au Mali, et ça veut dire ce que ça veut dire. Et je pense que cette approche commence à avoir son application, parce que récemment, les forces françaises ont mené des vastes offensives dans le cadre de l'opération Eclipse contre les groupes terroristes. Donc, c'est la preuve que la France, qui est le principal partenaire du Mali aussi, est déterminée vraiment pour que vraiment la sécurité puisse retourner le plus rapidement possible dans le nord et le centre du Mali. D'ailleurs, la nouvelle de N'Djamena a été que 1200 soldats tchadiens seront déployés au niveau des trois frontières et les effectifs de l'opération Takuba vont augmenter jusqu'à 2000 hommes. Donc, si on ajoute ces effectifs au G5 Sahel, à la MINUSMA, nous pensons qu'avec l'appui des armées locales, peut-être les groupes terroristes seront affaiblis, mais cela n'empêche pas le pouvoir central vraiment de pouvoir négocier avec ceux qui ne sont pas très très violents, avec ceux qui sont prêts à discuter et avec le pouvoir central.
Vous l'avez dit, la priorité du gouvernement doit être la préparation des élections. Qu'est-ce qui pourrait être, en dehors de ces élections-là, qu'est-ce qui pourrait être réalisé d'ici la fin de ce mandat?
Bon, moi je vous le dis en toute franchise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on essaie un peu de voir des chemins qui sont incertains. La relecture de l'accord, encore une fois, ça demande de nouvelles négociations. Et on a vu Alger comment ça s'est passé. Parce que c'était depuis janvier 2014 et ce n'est qu'en juin 2015 que nous avons signé l'accord. Est-ce que le gouvernement de transition a tout ce temps-là? J'ai des doutes sur ça. Deuxièmement, par rapport à la question des négociations avec les terroristes, ça, il faut se dire la réalité. On négocie sur quoi? Parce que ces gens ont clairement exprimé leur position. Et moi, je ne pense pas terroriste malien, terroriste... Pour moi, un terroriste est un terroriste, n'a pas de territoire, n'a pas de frontière, n'a pas d'identité, n'a pas de nationalité. Aujourd'hui, quand vous prenez les deux principales organisations auxquelles ces groupes sont affiliés, ou se disent en tout cas qu'ils ont prêté allégeance, Al-Qaïda et Daesh, ces gens ne sont pas des Maliens. Ces groupes ne répondent à aucun autre agenda qui n'est pas l'application aveugle de la charia. D'accord. Donc je pense qu'il n'y a aucun moyen de discuter avec eux. Maintenant, il ne faut pas aussi se tromper de cible. Le dialogue avec les extrémistes, il est toujours là. Parce que si ce n'était pas là, on a vu la libération de beaucoup d'otages. Pas seulement de Soumaïla qu'on cite récemment, mais beaucoup d'otages ont été libérés sur la base de quoi? Parce que justement, il y a eu le dialogue. Le dialogue, il est là. Et les gens ont été décorés récemment
par le président Bandao pour avoir contribué à la libération de Soumaïla Cissé. Et ces gens ont encore des liens avec ces milieux, donc ils peuvent de temps en temps arriver à des choses, mais ce n'est pas au gouvernement de
transition. Avant d'aller au deuxième tour de table, les élections pourront-elles être organisées à la date indiquée dans la charte?
C'est ce qu'on souhaite le plus. Parce que là, tout à l'heure, je vous le disais, quoi, le programme il est tellement vaste, les priorités sont nombreuses et chacune des priorités, comme elle l'a si bien dit, est un chantier à part. Donc si on dit qu'on veut prendre point par point ces priorités, ça nous prendra peut-être 50 ans. Maintenant, il faut vite s'atteler à 2-3 priorités au maximum. Organisation des élections, contribution à la sécurisation nationale, peut-être aussi revoir dans quelle manière on peut jeter les bases d'une réforme et après laisser les autorités venir à travers les urnes faire le reste du boulot.
Deuxième tour de table, au même moment, le M5 a introduit une dissolution du Conseil national de transition auprès de la Cour suprême. L'annonce a été faite le week-end dernier lors de son meeting de dénonciation de gouvernance de la transition. D'abord, le M5-RFP a dit non à la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation. Qu'est-ce que ce mouvement craint, selon vous, de la mise en œuvre de l'accord?
Peut-être pas seulement dans la mise en œuvre de l'accord, j'ai envie de dire que le mouvement a envie de prendre sa place en fait dans la transition. Et c'est ça qui n'a pas été fait, je pense, dès le départ. Et je pense que c'est ça que revendique le M5-RFP. Maintenant, moi, je ne vois pas dans quelle mesure, en fait, ils peuvent aller, c'est-à-dire au-delà des actions qu'ils entreprennent.
Le M5-RFP, la mise en œuvre intégrale de cet accord conduit les pays au mur.
Oui, je pense que le M5 ou comme d'autres mouvements qui disent que voilà, il ne faut pas appliquer de façon intégrale l'accord là, je pense que c'est un peu leurs arguments. Même si au fond, si on regarde, c'est-à-dire il y a des dispositions de l'accord. Oui, qu'il faut peut-être revoir. C'est-à-dire que même ceux qui disent qu'il faut aller à l'application de l'accord, ils savent que voilà, ça contient peut-être des termes que, et même ils appellent, j'allais dire, de façon diplomatique, qui prêtent à confusion à la limite. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde d'accord sur voilà, les termes, les mêmes pieds d'égalité et puis les retombées que ça va avoir. Maintenant, moi, je pense que juste prendre cet aspect-là par rapport au M5, oui, le M5, comme d'autres mouvements, il le revendique, mais je pense que si le M5 dit ça, voilà, c'est juste pour faire entendre sa voix, en fait, pour qu'on prenne en compte sa position.
Selon vous, cet accord est-il sécessionniste?
Bon, Madame l'a rappelé, certaines dispositions de l'accord prêtent à confusion. D'ailleurs, je veux vous rappeler que l'une des raisons pour lesquelles IBECA a été déposée, c'est par rapport effectivement à l'application de cet accord. Parce que pour bon nombre de Maliens, si les choses évoluent de cette façon, nous allons droit à la partition. Parce que le dimanche, ou je ne sais pas, le samedi, lors du meeting du M5-RFP, il y a Abdelkader Meghe qui l'a rappelé, il dit que l'objectif à long terme des groupes armés, c'est vraiment de diviser le Mali en deux, surtout avec la question de zones économiques, etc., etc. Et vous savez que récemment, Ibrahim Sidati a fait passer un communiqué pour dire que c'est les combattants de la CEMA qui vont assurer la sécurité dans la région du Gourma. Donc, c'est des choses que le M5-RFP n'a pas compris. Et cette affaire d'armée réconciliée, les Maliens ne l'ont pas du tout compris. Et au-delà de cela, je vais rebondir encore une fois sur le M5-RFP pour dire que le M5-RFP, au-delà de l'accord d'Alger, le M5-RFP a fait savoir qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de passer. Parce que Koniba l'a rappelé, Koniba a dit que Bandao, lors de son discours, a dit qu'il n'y a pas de corruption zéro, il y aura impunité zéro. Or, qu'il y a eu punition zéro, 15 milliards ont été débloqués pour rénover nos hôpitaux. Où est-ce que l'argent est parti? Les 1300 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour la loi de programmation et d'orientation militaire, où sont passés ces sous? Jusqu'à présent, la transition n'a pas fait cas de ça. Donc voilà, entre autres, des griffes qui ont été formulées quand même par les leaders du M5-RFP. Mais sur un autre point, je ne partage pas leur point de vue. Moi, je trouve qu'au sein du M5-RFP, quand même, il y a une certaine classe classe politique. Et cette classe politique, au lieu de passer son temps à critiquer, doit plutôt aller sur le terrain et préparer les élections à venir. Vous savez que la plupart des leaders...
Donc vous partagez l'analyse de Fatoumata qui disait tout à l'heure que le M5 n'a pas trouvé ce qu'il cherche.
Oui, le M5 n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Et ce que nous devons comprendre que la plupart, beaucoup des leaders politiques au sein du M5 ont déjà atteint la ménopause. Donc moi, je ne vois pas pourquoi ils vont continuer à s'agiter, à s'entre-déchirer par rapport au Mali. Ils ont fait partir Ibeka en disant qu'il y avait la mauvaise gouvernance. Une transition est venue. Moi, je pense qu'ils doivent profiter de cette transition, aller battre campagne, venir au pouvoir, vraiment, pour réformer le Mali, pour mettre le Mali sur une nouvelle piste.
Est-ce le cas? Le M5 doit aller revenir battre campagne?
Bon, je pense qu'aujourd'hui, le contexte a changé. Le contexte a changé, Ibeka n'est plus aux affaires. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? Parce que pour moi, je vois que le M5 aujourd'hui n'a plus sa raison d'être. Parce que continuer à rester là pour regrouper d'autres frustrations, vraiment, ce n'est pas la peine, quoi. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, c'est la transition. Il faut maintenant préparer les élections, superviser la mise en place de lois qui puissent nous permettre de ne pas assister aux mêmes dérives qu'au régime précédent. Moi, je pense que c'est ça, aujourd'hui, le travail que ce M5 relooké doit aujourd'hui s'atteler. Mais quant à revenir sur les mêmes termes, sur les mêmes... grands chevaux, je pense qu'aujourd'hui le contexte est totalement différent parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas
le
sans
M5
savoir
se réclame du peuple.
Oui, mais quand même le M5 a aussi des membres qui font partie aujourd'hui des organes de la transition. Ça aussi, il ne faut pas qu'on ferme les yeux dessus. Et on les a fait tout. Pourquoi aujourd'hui, vous avez vu, vous avez tantôt parlé de l'accord. Vous avez tantôt parlé de l'accord dans le cadre du M5. Le M5, au départ, ça ne faisait pas partie de ses revendications, parce qu'il y a un nouveau front qui l'a rejoint, qui a aussi un dossier comme l'accord, comme il y a aussi les partisans de Ras Bach ou bien d'autres détenus qui veulent aussi faire libérer des partisans de la vie chère. Donc il y a tout cela. Aujourd'hui, M5 ne doit pas rester là tout simplement comme une sorte de mur de lamentation où chaque citoyen qui a des mots vient s'exprimer. Non, aujourd'hui, je pense que il faut que le M5 se restructure et que les gens aillent préparer les élections comme il faut. Et maintenant, mettre un cadre de veille pour tout simplement, à chaque fois, rappeler à l'ordre, à chaque fois qu'il y a des dérives. Juste pour terminer là-dessus, moi, je ne pense pas que l'accord fasse partie des raisons des raisons qui ont fait partir Ibeka. Parce que même les autorités qui ont pris le pouvoir après la junte, je veux dire, qui a pris le pouvoir, s'est tout de suite engagé à mettre en œuvre l'accord.
Le
M5... Donc ça, c'est pas une contradiction, quoi.
Le M5 a annoncé avoir aussi introduit une procédure de dissolution du Conseil national de transition auprès de la Cour suprême. Quelle lecture faites-vous de cette procédure?
Bon, je ne peux pas commenter en tant que juriste parce que voilà, je ne pourrais pas donner des arguments fiables par rapport à ça. Mais sur la démarche, voilà, c'est ce que je reviens sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire que le M5 n'a pas trouvé sa place dans la transition. Et donc pour lui maintenant, cette transition n'est pas, le terme qu'ils ont utilisé, c'est rectifier la transition. Et ils veulent rectifier la transition. Et comme disait Massiré, je pense que malheureusement, voilà, on n'est pas dans un contexte comme ça, c'est-à-dire que c'est une transition, voilà, il y a plusieurs forces qui se sont réunies pour vouloir cette transition, parce que souvenez-vous qu'à un moment donné...
Mais selon vous, qu'est-ce que le CNT a fait pour que le M5 demande sa dissolution?
C'est pas seulement le CNT, j'ai envie de dire que le CNT est un peu comme le bouc émissaire, quoi, voilà, c'est le CNT, c'est Bandao, c'est le gouvernement, voilà. Et donc, puisque c'est l'organe législatif et que c'est vraiment devant lui que même le gouvernement qui va travailler désormais doit aller chercher, j'ai envie de dire, sa légitimité. Donc c'est logique que le M5 s'attaque au CNT.
Juste pour rebondir.
Oui. Quel sens peut-on donner à cette procédure?
Bon, le sens qu'on peut donner à cette procédure, c'est qu'on peut dire que la Côte d'Algérie ressemble plutôt à une montagne russe. Autrement dit, l'application se présente en dents d'ici. C'est-à-dire, il y a un réel problème par rapport au contenu de l'accord d'Alger. Vous savez, à l'époque, le pouvoir central a signé l'accord d'Alger sous le couteau sous la gorge. Après, on s'est rendu compte qu'il y a des dispositions de l'accord qui doivent être modifiées. Et il faut impérativement que ces dispositions soient modifiées. Je ne sais pas, ce serait par référendum ou je ne sais pas, ce serait par autre chose. Mais encore une fois de plus, l'accord d'Alger en l'état est inapplicable. Et ça, tout le peuple malien est d'accord là-dessus. Donc il ne faut pas que le transition s'entête à appliquer ce qui est inapplicable. Sinon, ça va poser d'autres problèmes.
Cette procédure de dissolution aura-t-elle une chance d'aboutir?
La dissolution du CNT?
Oui.
Non, moi je pense que ça c'est lettre morte. Ils ont déposé une plainte au niveau de la Cour suprême pour demander la dissolution du Conseil national de transition. Et le Conseil national de transition va continuer à travailler jusqu'à la fin de la transition. C'est le jeu démocratique. Vous savez, le M5 anime souvent le débat démocratique, je suis d'accord avec eux. Et l'autre jour, ils ont dit une chose, je suis encore d'accord avec eux. Quand le président Banda va donner des médailles à des colonels poutistes, à des colonels qui ont fait un coup d'État, vous voyez ce que ça fait. Et l'attaque de Bayangara a démontré que ces colonels sont inefficaces. Parce que ces colonels, quand ils sont venus, ils ont mis en place un plan de sécurisation. Et le plan de sécurisation a déjà présenté ses failles. Qui pouvait imaginer que tout un escadron puisse être attaqué? Et dans une région, Ibeka a passé ses 7 ans pour aucune région n'a été attaquée, il faut dire la vérité. Donc vraiment, sur un point, je suis d'accord avec le M5 par rapport aux questions sécuritaires que le colonel ouvre les yeux. Qu'il sache que c'est eux qui seront en première ligne pour ramener la sécurité au Mali. Les forces internationales, les forces partenaires sont là pour les épauler, pour les soutenir. Mais le dernier mot reviendra à eux. Donc qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se ressaisissent. Ils sont venus pour vraiment redresser le Mali. Ils ne sont pas venus pour s'asseoir dans des bureaux climatisés. Et on a l'œil sur eux.
Le M5 dit non à la marche de transition sans boussole ni repère. Cette transition n'a-t-elle pas de boussole ni de repère?
Ah non, là, je pense que le débat est carrément... Bon, non, le débat ne s'oppose pas. Bon, je pense qu'il y a la feuille de route. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un programme d'action gouvernementale. Mais je préfère surtout revenir sur la question du CNT. Vous savez, le M5, aujourd'hui, on sait que en son sein, il y a des anciens députés ou bien des députés de l'ancienne législature. Et eux, ils étaient un peu révoltés de ce qui s'était passé parce qu'eux aussi, on a mis fin à leur mandat, on a écourté leur mandat avec le régime précédent. Donc je pense que tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, le M5 porte aujourd'hui un recours comme ça pour un peu plaire aussi à cette frange. Et l'une, on a vu l'une des figures aujourd'hui de ces anciens députés qui est aujourd'hui aujourd'hui, l'ex-députée, en tout cas de Bourem, Madame Aïdara
Château,
Madame Château. Et aujourd'hui, elle est au CNT. Donc, elle ne parle même plus de cette histoire de faire revenir l'ancienne législature et tout ça. Je pense que c'est juste pour un peu plaire à cette frange de la contestation.
Pour dernier tour, ce que Machere a dit, vous savez, chez nous, c'est la politique du type digestif. Et en ce sens que tous ceux qui ont rejoint les M5 RFPC pour leurs intérêts, parce que leur sauce a été versée, ils sont mécontents. Donc ils sont partis rejoindre les M5 RFPC qui a tendance à devenir un club d'aigri, comme il faut le dire.
D'accord. Le troisième tour de table, au même moment, les prix des premières nécessités, comme le pain, la viande, l'huile, le ciment et le fer, ont connu une hausse depuis quelques semaines, une situation décriée par les consommateurs. En réponse, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence explique cette flambée par la pandémie à COVID-19, l'insécurité et les difficultés d'approvisionnement de produits. Fatoumata, quelles sont déjà les conséquences de cette flambée sur le panier des populations?
Ben oui, je ne sais pas si je vais commencer par l'attitude du citoyen lambda. C'est vrai que souvent on reproche aux Maliens de n'avoir pas ce militantisme-là, voilà, peut-être de boycotter entre guillemets le pain pendant 2 ou 3 jours pour voir ce que ça fait. Parce que c'est vrai que cette flambée du prix pour du pain, pour ne prendre que cet exemple-là, Si on nous explique par oui la flambée des cours mondiaux, je sais pas, du blé ou de la farine, mais j'ai envie de dire que ça entraînait en fait une sorte d'effet domino, comme si tous les autres se sentaient obligés d'impacter ça sur leur prix en fait, parce que après les bouchers ont augmenté, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il y a l'insécurité, il n'y a pas suffisamment de vaches, le marché n'est pas approvisionné. Et qui d'autre encore? Il y a les riz, oui, parce qu'il y a certains cultivateurs qui ont été empêchés de couper leurs champs ou leurs champs ont été brûlés. L'huile, voilà, parce qu'on n'a pas fait le coton, ainsi de suite. J'ai l'impression que c'est un peu un désordre, voilà. C'est un peu chacun, il va comme il veut. Et le gouvernement n'a vraiment pas pour le moment une maîtrise pour pouvoir vraiment montrer qu'il a la capacité, j'allais dire, de réglementer un tant soit peu quand même le secteur, parce que ça ne peut pas être un désordre comme ça. Et puis paf, c'est vrai que la COVID-19 est beaucoup indexée, comme on va dire, mais voilà, depuis combien de temps? Et puis ça ne fait que s'aggraver.
Selon vous, les différents acteurs utiles, leur rôle?
Bon, quand même, celui qui dirige le commerce et la concurrence, j'avais dit le directeur général, Boukadari Doumbéya, quand même, est intervenu pour dire que, au niveau de certains grossistes, les stocks sont en baisse. Donc, ils en ont profité pour augmenter les prix. Mais encore faudrait-il rappeler.
Cette augmentation est-elle justifiée?
Cette augmentation n'a aucune justification. D'ailleurs, c'est pour ça que le panier de la ménagère souffre. Vous savez, récemment, on a augmenté 50 francs sur le prix du pain et le prix de la viande de 2000, on se retrouve à 2500, etc., etc. Le prix même du ciment a connu une hausse vertigineuse ces derniers temps et nous demandons vraiment la transition de tout mettre en œuvre pour trouver une solution à cela. Parce que la majorité du peuple malien est pauvre, il faut le dire. Et l'une des raisons pour lesquelles le président Omar El Béchir a été chassé au Soudan, c'est justement l'augmentation du prix du pain. Donc, quand le prix des denrées de première nécessité augmente, ça amène des troubles sociaux que Dieu nous en garde. Ce n'est pas seulement le pain, il y a l'huile qui a connu une hausse, le riz gambiaka a connu une hausse et aussi. Donc, pour vous dire encore une fois que vraiment, sur le plan social, ça ne va pas du tout. Et il faut que la transition se réveille, il faut que la transition trouve une solution à cela. C'est vrai, avec la crise du nord et du centre, le bétail sur pied arrive difficilement à Bamako à cause de l'insécurité. Tout ça, c'est vrai. Et l'approvisionnement de la capitale pose problème à cause du coronavirus et à cause d'autres facteurs. Mais toujours est-il que le dernier mot revient à l'État, parce que l'État parfois n'arrive pas à réglementer les prix. C'est vrai, nous sommes dans un système libéral, mais le dernier mot revient quand même à l'État. C'est à l'État de sévir, c'est à l'État de mettre en application vraiment un certain nombre de mesures pour que nous ne puissions pas connaître cette hausse vertigineuse du prix des denrées de première nécessité, surtout que le mois de carême quand même pointe à l'horizon.
Le Premier ministre a déclaré pourtant que le problème de flambée des prix de produits de première nécessité est en train d'être traité en synergie avec l'ensemble des acteurs.
Bon, si c'est le cas, on peut tout simplement dire wait and see, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à dire de plus. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'anarchie qui domine un peu ce secteur du commerce-là. Vraiment, c'est l'anarchie. Chacun n'en fait que pour lui. Mais aujourd'hui, c'est à l'État aussi d'être une sorte d'alternative pour les populations. Parce que d'accord, ces grossistes peuvent se permettre ce qu'ils veulent, mais l'État aussi a les moyens d'avoir ses propres boutiques, quitte à des boutiques où les prix des denrées de première nécessité seront accessibles. On a vu l'exemple dans beaucoup de pays, où c'est l'État même qui a ses propres boutiques, qui fait souvent de la concurrence aux grossistes et tout ça, personne ne va acheter chez eux. Et là, tu vas voir tout de suite que les prix vont baisser. C'est-à-dire qu'il y a tellement de moyens pour faire en sorte que les prix baissent aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'un grand débat autour de ça ou bien réunir une grande commission pour discuter. Non, même par rapport au Covid. Mais il y a des mesures qui ont été prises.
Vous estimez que l'État n'a pas la volonté de réduire les prix?
Jusqu'à présent, c'est la volonté politique qui manque pour mettre un peu d'ordre dans ce secteur-là. Jusqu'à présent. Parce que chacun n'en fait qu'à sa tête et aujourd'hui, l'État aussi doit prendre quelques mesures. On a vu, par exemple, la dernière fois, quand il a été question des péages,
On a vu ce que ça a suscité. Donc la même réaction aussi doit être également du côté de l'État. Parce que les prix, c'est l'État.
Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut en 30 secondes?
Aujourd'hui, concrètement, moi, je pense qu'il faut véritablement taper du poing sur la table, rappeler tous les commerçants à l'ordre. S'ils n'obtempèrent pas, ouvrir d'autres boutiques témoins.
Fatoumata, quelle solution?
Ben oui, parce que on ne peut pas juste dire que les stocks commencent ou bien les commerçants ont peur de leurs stocks et ils vont faire la spéculation sur ce qu'ils ont. Donc je pense que s'il y a une autorité quand même, elle doit agir par rapport à ça, pour soulager les consommateurs.
Je suis d'accord en partie avec ma sœur, mais malheureusement avec l'initiative et l'affaire des magasins témoins, on a vu ce qui s'est passé. Souvent c'est l'État même qui pose problème. C'est-à-dire l'État, en voulant vraiment soulager la souffrance des populations, augmente la souffrance des populations à travers certains agents virés. Donc encore une fois, nous demandons toujours à l'État vraiment de s'assumer, de prendre ses responsabilités, parce que le mois de Karim approche et ventre vide n'a point d'oreille.
L'État doit s'assumer et le ventre vide n'a pas d'oreille. Ainsi s'achève ce forum de la presse coordonné par Mouhamadou Touré et nos invités Fatoumata Maguirega du journal du Mali, Massiré Diop du journal L'Indépendant du Mali, Badou Escoba du journal Le Carrefour, à la présentation Imirana Kilo Maïga, mise en onde Péting Diara, à la régie vidéo Gagné Kanté. Merci et à la semaine prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halo Dumondi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.